Bonjour, c'est Benjamin Muller et bienvenue, où ça ? Bah, dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, quel plaisir de vous retrouver sous cette forme. Je sais pas vous, mais moi, le podcast, j'adore. J'aimerais bien savoir d'ailleurs où est-ce que vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez en voiture, en courant, en marchant, en faisant la cuisine, n'importe quoi. Bref, on aime beaucoup savoir où vous écoutez le podcast. Ce qui est sûr, c'est que c'est un outil qu'on trouve tous formidable et donc on est ravis de pouvoir vous offrir un épisode chaque jour. Et aujourd'hui, le thème, c'est un thème qui est pas marrant mais qui concerne beaucoup de monde. On le sait, vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander d'en parler. Et bien, on va parler des fausses couches, mais en particulier des fausses couches à répétition. Vous allez d'abord entendre ce témoignage de Lisa, un parcours compliqué, mais vous allez voir qui se termine bien. Et puis on fera une analyse après avec Dr Born, qui est gynécologue. On se retrouve juste après. C'est parti pour écouter Lisa.
Bonjour Lisa. Bon, alors là, il faut faire une transition. Hein. Vous êtes aujourd'hui une maman comblée, mais alors vous avez vraiment un parcours difficile. Vous, 6 années qui ont précédé la naissance de votre premier enfant, qui ont été extrêmement compliquées, parce que, comme beaucoup de femmes, parce qu'il faut le dire, la plupart des femmes en font au moins une, vous avez fait de nombreuses fausses couches. C'est aussi un parcours qui est, on l'a dit, douloureux, mais aussi très banalisé par le corps médical, par les proches. Et donc, c'est important aussi d'en parler dans cette émission. Et puis, vous avez eu vos bébés miracles. Donc, on le dit tout de suite, ça se termine bien. On spoil un peu. Tom, qui a 3 ans, et Nathan, qui a 1 an. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet important. Alors déjà, très jeune, vous avez appris que vous étiez porteuse d'une anomalie et que du coup, ça serait un petit peu difficile d'avoir un enfant. C'était quoi cette anomalie et comment vous l'avez appris?
Alors, c'est une translocation chromosomique de naissance que ma mère m'a transmise. C'est vraiment une affaire de famille chez nous. Ça vient de mon grand-père qui l'a transmis à sa fille, à son fils. Et ma mère me l'a transmise à moi. Donc, on est 4 dans notre famille à être porteurs de la même translocation. Donc, c'est une anomalie chromosomique. C'est en fait des fragments de chromosomes qui se cassent et qui se permutent entre eux. Et c'est ça qui cause en fait un problème à la conception d'un enfant.
Voilà, donc vous savez que ça va être compliqué, vous savez qu'il va falloir s'armer un petit peu de patience, mais j'imagine que vous dites, bah, si ma mère m'a eu, c'est que c'est possible. Donc à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, allez, j'ai mon projet bébé et je me lance?
Alors avec mon mari, on s'est connus très jeune, on avait 16 ans. D'année en année, on s'est mis en appartement, on a concrétisé ensuite notre projet d'enfant a donc mûri d'année en année. Et à l'âge de 21 ans, on a choisi donc que j'arrêtais mon contraceptif, donc une pilule. Et donc en 2012, et quelques mois après, 7 mois après, je tombe enceinte de mon premier enfant. Donc finalement, je me dis, je suis tombée enceinte assez vite. Ça va pas être si compliqué que ça finalement d'avoir un enfant. Donc on est heureux, on l'annonce à ma famille, à mes amis, on va dans les magasins de puériculture, on regarde les accessoires bébés, les lits, les vêtements, on est très heureux. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, je fais ma première fausse couche.
C'est quoi, quelques semaines plus tard ?
Un mois plus tard. Mmh.
Mais vous avez eu le temps déjà de vous projeter, évidemment.
Ben oui, malheureusement, oui, on a commencé à se projeter.
C'est toujours ça, c'est évidemment.
Et du coup, il faut annoncer la mauvaise nouvelle aussi à la famille, aux amis. Et ça aussi, ça, quand c'est la première fois que ça vous arrive, c'est quand même assez dur.
Oui, ben même, de toute façon, je pense toutes les fois, puisqu'à chaque fois, mine de rien, un mois, c'est long.
Oui.
C'est 30 jours pour se projeter, aller dans les magasins, et c'est évidemment le deuil de ce qu'on projette qui est le plus difficile à faire. L'année suivante, vous êtes en plein préparatif de mariage, et là, vous apprenez que vous êtes de nouveau enceinte.
Tout à fait. Alors là, je suis très heureuse parce que je vais me marier. C'est un projet... voilà, depuis toute petite, je veux me marier, hein, comme toutes les femmes. Et là, j'apprends que je suis enceinte, donc je me dis, c'est merveilleux. Ça va être un double bonheur. Je vais avoir un petit ventre arrondi lors de la cérémonie. Donc, on choisit les robes de mariée. Je décide de prendre une robe plutôt ample pour ne pas être trop boudinée dans ma robe et être très belle le jour J. Et encore une fois, une deuxième fausse couche intervient un mois à peine avant le mariage. Donc là, pour cette deuxième fausse couche, on n'avait rien annoncé à personne, sauf à ma mère, sauf à mon père, ma mère et ma sœur. On n'avait rien annoncé à nos invités. Donc là, bon, un deuxième coup dur, mais bon, on rebondit, on se dit, on est encore jeune. J'avais 22 ans. Et puis bon, le mariage arrivant, on allait du coup être très heureux.
Ça vous a changé
heureux.
Les idées.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On était changé, encore dans les préparatifs.
Oui. Ce qui vous a changé les idées aussi, c'est que vous avez ouvert une boulangerie.
Oui.
Avec votre mari. Donc du coup, vous avez laissé un petit peu votre projet bébé de côté. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez alors à cette période-là?
Alors on a repris la boulangerie à Mortagne-sur-Gironde en juin 2014. Et là, on travaille comme des forcenés à la boulangerie. C'est vraiment notre premier bébé, la boulangerie. Hein. Voilà, on s'est investi, on avait investi toute notre énergie dedans. Et le projet bébé, naturellement, s'est mis un petit peu entre parenthèses. Pourtant, pour autant, je n'ai pas repris de contraceptif. Mais
voilà. La troisième grossesse.
La troisième grossesse est survenue donc un an et demi après l'ouverture de la boulangerie. Donc là, ouais, en octobre 2016. Du coup, là, malheureusement, encore quelques semaines plus tard, je subis ma troisième fausse couche, la première fausse couche à la boulangerie. Et là, du coup, je ne dis rien à mes clients, évidemment. Hein. Voilà, on vient juste d'arriver. Je préfère ne rien dire, prendre sur moi.
Troisième, ça commence à faire un petit peu long. J'imagine que vous commencez à être un petit peu désespérée. Et puis après, vous tombez enceinte en même temps que votre meilleure amie, c'est ça? Donc là, c'est une joie, j'imagine. Encore plus intense de se dire qu'on va vivre ça à deux.
C'est ça, donc avec ma meilleure amie Léa, on s'appelle en octobre de l'année d'après. Du coup, elle m'annonce qu'elle est enceinte pour la première fois. Et puis je lui annonce également la bonne nouvelle que moi aussi je suis enceinte. Donc on se dit c'est génial, on va être maman pour la première fois toutes les deux en même temps, on va accoucher en même temps, ça va être un rêve. Et puis, heureusement pour elle, sa fille naît en mai 2017. Mais moi, voilà, encore quelques semaines plus tard, je fais ma quatrième fausse couche. Et là, à partir de ce moment-là, je commence à devenir de plus en plus réticente aux femmes enceintes. Hein. Je fuis les femmes enceintes.
Oui, c'est-à-dire que quatre fausses couches en quatre ans, on imagine à quel point c'est éprouvant. Vous étiez dans quel état d'esprit psychologiquement? Vous dites, je ne supportais plus de voir une femme enceinte. Je crois que toute personne qui a eu une fausse couche a eu cette sensation. On n'a pas envie de la ressentir, mais elle est tellement normale.
C'est ça, on se dit pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi la plupart des femmes y arrivent, y parviennent, et moi, je n'y arrive pas. Alors, on sait qu'il y a cette anomalie chromosomique qui est la cause de toutes mes fausses couches, mais oui, on s'en veut, on a honte.
Et puis, vous êtes tombée enceinte une cinquième fois, vous avez fait une cinquième fausse couche, et là, vous avez vraiment sombré, on peut le
c'est
dire.
C'est ça, oui. En août 2017, là, je fais une cinquième fausse couche, encore à la boulangerie, et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la fausse couche de trop. Cinq à la suite, c'est extrêmement lourd, effectivement. Psychologiquement, physiquement, c'est extrêmement lourd. Quoi.
Ouais. Vous avez décidé de vous faire accompagner. Oui. Vous avez mis du temps quand même, parce que...
Oui, oui.
Peut-être que c'est le conseil qu'on peut donner à nos téléspectatrices. C'est si ça vous arrive, vraiment vous faire accompagner. Vous avez choisi un hypnothérapeute. Trois mois plus tard, vous êtes tombée enceinte une sixième fois. Alors là, on n'ose pas imaginer à quel point vous étiez stressée, quoi.
Ah bah c'est ça. Donc je tombe enceinte une sixième fois. Je me confie à l'hypnothérapeute qui me dit écoute Lisa, ça y est, c'est la bonne. Je sens que tu vas mener cette grossesse à terme. Tu peux te rassurer. Effectivement, il avait totalement raison. Donc du coup, je vais aux échographies un peu plus confiante puisque mon hypnothérapeute m'avait dit que je pouvais y aller en toute confiance. Je vais à la fameuse échographie des 12 semaines à l'hôpital avec mon
mari. Vous n'aviez jamais dépassé quel nombre de semaines?
10 semaines maximum.
Oui, c'est ça.
8-9 semaines maximum. Hein. C'était toujours des fausses couches prématurées. Voilà, des fausses couches avant 12 semaines aménorrhées, avant le stade fatidique des 12 semaines.
Là, vous avez entendu son petit cœur.
Ah là, non, mais c'était magique. Voilà, dès qu'on a vu à l'écran notre enfant, un bébé parfaitement constitué avec des bras, des jambes, une tête, un cœur qui battait, mais moi j'ai fondu en larmes, j'ai fait une crise d'angoisse. Il a fallu me calmer, interrompre l'échographie pour que je me calme. Parce que
mi
je tenais
euphorie,
pas en place.
Mi angoisse, j'imagine. Hein.
Ah non, mais ouais, oui, mais c'était surtout de la joie. De la joie, là on a fait exploser notre joie, moi et mon mari, parce que c'était. Ça y est, enfin on allait être parents, on allait concrétiser notre projet, c'était un rêve quoi, un rêve.
Alors votre fils, il est né à terme, vous avez pu commencer votre vie de jeune maman, vous avez oublié les fausses couches après, tout ça c'est...
Oui, vraiment, depuis que mon fils est né, ça a été mon médicament, mon fils, hein, ça c'est clair. Hein.
Alors, pour le premier anniversaire de Tom, tout à coup, un très beau cadeau pour vous aussi.
Exactement, voilà, on fête l'anniversaire de Tom et puis... quelques semaines plus tard, alors début novembre, le jour de notre anniversaire de mariage d'ailleurs, le 2 novembre, j'apprends que je suis enceinte, une énième fois, donc une, voilà. Et effectivement, bah, c'est donc son petit frère qui s'est installé par surprise. Hein, on s'était
dans quel
pas
état d'esprit est-ce que vous étiez ?
Angoissée.
Angoissée quand même ?
Oui. Pas par la grossesse en soi, mais par le fait que j'allais avoir deux enfants extrêmement proches en âge. Hein. Ils allaient avoir 21 mois d'écart. Mon fils aîné ne marchait à peine. Mon deuxième allait naître en juillet. Donc avec la boulangerie, au niveau organisation, ça allait être très compliqué de gérer deux bébés en pleine saison. Voilà, donc j'étais un peu stressée par rapport à ça, mais heureusement, j'ai annoncé à
mais
ma famille assez tôt.
Mais pas par la fausse couche, c'était pas non, ça qui vous stressait ?
Non, franchement, non.
Une fois que vous avez eu une grossesse, en fait, qui a été menée à terme, vous vous êtes dit, bon, voilà, ça veut dire que je suis capable de le faire, j'imagine.
C'est ça, une fois que j'avais eu mon premier enfant, que je fasse une fausse couche ou pas, c'était pas bien grave. Voilà, j'avais mon fils et c'était tout ce qui comptait.
Bon, alors Lisa, aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Quel regard est-ce que vous portez sur cette période et sur vraiment ce parcours très difficile ? Et surtout, quel message est-ce que vous voulez faire passer aux jeunes femmes qui nous regardent et qui vivent des fausses couches à répétition ?
Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis maman de deux merveilleux enfants. Tout va bien. Je suis très heureuse. Si j'ai un message à faire passer, c'est parlez-en. Surtout, n'ayez pas honte d'en parler parce que vous n'êtes pas seule. Voilà, ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Je me suis renfermée sur moi-même pendant des années. Et dès que j'en ai parlé, ça m'a fait un bien fou, ça m'a libérée. Donc voilà. Et puis armez-vous de patience. Hein.
Ne désespérez pas.
Ne désespérez pas. Voilà, il faut encore garder espoir.
Rien n'est figé. Rien n'est figé.
Tout à fait.
Merci, vous aurez donné, j'imagine, beaucoup, beaucoup d'espoir à toutes les femmes qui nous regardent. Bonjour docteur Marie Born.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne, responsable de la maternité de l'hôpital Tenon à Paris. Alors, c'est vrai que cette histoire de fausse couche à répétition, on a l'impression que c'est un petit peu nébuleux. On a reçu beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet. Donc là, on a vu que Lisa souffrait d'une mutation génétique de naissance. Ouais. C'est un facteur qui entraîne forcément beaucoup de fausses couches ?
Alors, pas forcément. C'est une translocation chromosomique. Hein. C'est pas tout à fait une mutation. Pas forcément, mais effectivement, alors ça dépend des types de translocation, mais le risque de fausse couche est supérieur à 80%.
Mais c'est énorme.
Ouais. Vous avez confondu mutation et translocation.
Je n'ai fait que lire ma fiche.
Oh là là.
Mais certaines personnes se lient pour
elle
détruire ma carrière.
Elle ne connaît rien, cette Agathe. Oh là là, excusez-la, hein, docteur. On a reçu une question pour vous de Lynn en vidéo, regardez.
Bonjour, je m'appelle Lynn, j'ai 31 ans, je suis la maman d'une petite Louise âgée de 14 mois. Ma question concerne la prise en charge des patientes qui font une fausse couche, notamment aux urgences. Est-ce qu'on pourrait envisager ou espérer une bienveillance ou une attention particulière aux termes utilisés par les soignants lorsqu'ils font l'annonce de cette mauvaise nouvelle, et ce, peu importe le terme avancé ou moins avancé de la grossesse. Merci.
Bon, docteur, ça vous le savez, c'est un sujet qui fâche, ça revient beaucoup.
C'est un gros sujet, ça revient beaucoup. Bah oui, alors espérer une amélioration, ça c'est sûr qu'on ne peut que l'espérer. C'est vrai que la fausse couche, la prise en charge aux urgences gynécologiques, malheureusement, et on progresse, hein, mais malheureusement, il y a des maladresses. En fait, il y a une différence entre, comme c'est le premier motif de consultation aux urgences, que souvent sont des internes en gynécologie obstétrique qui prennent en charge les patientes, il y a un décalage entre la banalité
de
l'événement
leur
de leur côté et le drame, enfin, ou la catastrophe, l'énorme déception qui est vécue en face. Et c'est vrai qu'alors on essaye d'y travailler, parce que dire « c'est pas grave, vous en ferez un autre », ça n'a aucun sens de dire ça à ce moment-là.
Mais si on se met à la place de ces internes, effectivement, ils vont en voir 5, 6 par jour.
Même,
donc on peut comprendre qu'au bout du 10e, quand il est tard, que ça fait une garde de 12 heures, j'essaye de me mettre à leur place.
Non, mais bien sûr, mais en fait, alors ça, c'est à eux de ne pas oublier qu'il faut qu'ils se comportent exactement de la même façon que si ça avait été une perte beaucoup plus tardive. Parce que l'investissement dans les grossesses, il est parfois à 3 jours de retard de règles. Mmh. On a le prénom, l'école, la poussette, tout ça. Donc, et ça, c'est très variable selon les patientes, mais il faut être vraiment très prudent et vraiment peser ses mots.
Et vous, vous insistez avec les internes par rapport à ça maintenant ?
Nous, évidemment, chez nous, on est particulièrement sensibilisés parce qu'on a notre activité de prise en charge des fausses couches à répétition. Mmh. Donc, les internes sont particulièrement briefés. Mais, et malgré tout, de temps en temps, ça peut déraper, je le sais très bien. Hein. Mais oui, bien sûr. Et on travaille beaucoup sur la formation des jeunes internes sur ce sujet, parce que techniquement, oui.
Alors justement, quand Chloé nous demande quand parle-t-on de fausses couches à répétition ?
Alors en France, la définition c'est 3 fausses couches consécutives avant 14 semaines. Ça c'est les recommandations, la définition qui a été publiée en 2014 en France. Depuis, il y a eu des recommandations européennes qui, elles, disent plus de 2 fausses couches avant 10 semaines. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes définitions. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus fréquent, hein, 2 fausses couches avant 10 semaines. Donc... nous, maintenant, on le définit un peu aussi selon d'autres critères. Évidemment, c'est une patiente qui a fait 2 fausses couches, mais qui approche la quarantaine. On va être beaucoup plus actif qu'une patiente qui en a fait 2 à 25 ans. Ça ne va pas du tout être la même forme de prise en charge et probablement pas les mêmes causes, d'ailleurs.
Donc, l'âge est un facteur. Il y a quoi d'autre comme facteur de fausses couches ?
Alors, de fausses couches en général, l'âge, c'est le premier facteur. Il y a l'obésité, l'alcool, le tabac, des pathologies hormonales, beaucoup de pathologies thyroïdiennes, le diabète, les anomalies chromosomiques, bien sûr, dont on a parlé.
Il y a beaucoup de facteurs possibles.
L'endométriose ?
Alors, l'endométriose, c'est discuté. Probablement, c'est un facteur de risque de fausses couches. Dans les fausses couches à répétition, on ne sait pas bien, probablement pas.
D'accord.
Probablement pas. L'endométriose, c'est plus l'infertilité que les fausses couches.
Alors, Clotilde vous demande, quand on fait des fausses couches à répétition, quels examens peuvent être proposés ?
Alors, ça va être, il faut proposer un bilan qui a un très lourd bilan, avec évidemment une prise de sang complète, avec recherche de pathologies hormonales, de pathologies auto-immunes. On va prescrire des examens gynécologiques un peu poussés, une échographie en début de cycle, une échographie en deuxième partie de cycle, l'hystéroscopie, donc c'est la caméra dans l'utérus, l'échographie 3D. On va prescrire un bilan pour le conjoint aussi, hein, une analyse du spermogramme. Analyse du
spermogramme. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu des fois le spermogramme ?
Oui,
j'ai l'impression que ça vient un peu tard.
Alors, en fait, c'est normal parce que c'est une donnée qui est assez récente.
C'est vrai ?
Oui, qui est issue de la prise en charge en AMP. On sait que quand on a certaines anomalies spermatiques, notamment quand elles sont associées avec des pathologies de la fragmentation de l'ADN, ça, c'est un facteur de risque de fausse couche. En tous les cas, c'est bien démontré pour la PMA, donc on le prescrit aussi maintenant.
Inès qui vous demande quels sont les signes annonciateurs d'une fausse couche.
Ah bah, le premier signe, c'est le saignement. Donc, même si ça peut être normal, hein, faut pas paniquer, mais il faut consulter. Et saignement associé à des douleurs pelviennes, c'est ça les deux principaux.
Dans tous les cas, en cas de saignement,
il faut y aller, il faut aller voir ce qui se passe.
On y va,
il faut vérifier que tout se passe bien, Et surtout si on est de groupe sanguin résus négatif, hein, pour avoir le vaccin.
Le vaccin qui s'appelle ?
Le vaccin qui s'appelle Rofilac.
Rofilac.
Voilà, qui permet d'éviter de s'immuniser.
Je le note comme si j'allais le prendre après l'émission.
J'allais me chercher un petit Rofilac, le mec prend son stylo et fait
Très bien.
Juliette vous demande, je vais débuter un parcours de FIV, est-ce que ça va augmenter les risques de faire des fausses couches ? Ça va souvent ensemble, hein, cette idée de FIV.
Oui, c'est décrit, mais c'est surtout parce que les patientes sont plus âgées. Et donc, comme le risque de fausse couche, il augmente directement avec l'âge, évidemment, quand on prend toutes les FIV, il y a un peu plus de risque de fausse couche de par l'âge des patientes.
Mais si elles ne sont pas forcément...
A priori, non. Il y a un léger surrisque, mais qui n'est même pas certain, qui est probablement plus lié aux pathologies de l'infertilité sous-jacente. Donc, en gros, il faut retenir non, et, sauf si, évidemment, on est plus âgé.
Et quand vous dites plus âgé, juste, c'est quel âge ?
Alors...
Vous pouvez mentir.
Faites-nous mal.
En obstétrique, on est vieux jeune. Donc,
vieux jeune.
Donc, à partir de 35 ans, on commence à avoir des risques de fausse couche qui augmentent.
Ce sont les chiffres. Hein.
À part Benjamin.
Et en même temps, regardez-moi, j'ai fait 2 enfants comme ça à 40 et 41 ans.
Sans FIV.
Sinon, je ne ferais pas ça quand même, parce que c'est quand même des parcours difficiles. je veux dire, l'espoir existe.
Absolument.
Alors, il y a une bonne question d'Alicia. Qu'est-ce qu'une grossesse biochimique ?
Alors, la grossesse biochimique, c'est une entité qui est particulière, qui ne compte pas vraiment dans les fausses couches, pour nous en tout cas, mais qui est une fausse couche qui est tellement précoce qu'elle arrive avant qu'on puisse voir quelque chose à l'échographie.
D'accord.
Donc, c'est des fausses couches, en général, qui ont lieu avant que le taux de grossesse est monté jusqu'à 2000.
On peut ne pas s'en rendre compte, du coup, qu'on a été enceinte. C'est souvent, même, on imagine.
C'est probablement beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. Et dans les études où ils comptent les grossesses biochimiques comme des fausses couches, on monte à 30% par grossesse.
Ah oui.
Ah ben oui. Ah oui. C'est hyper fréquent, en fait.
Et du coup, les petites pertes sanguines peuvent être prises pour des règles, j'imagine.
Exactement,
c'est
en disant, ouais, bah, tiens, ce mois-ci, j'ai eu 4 jours ou 5 jours de retard. Et en fait, c'était peut-être une grossesse biochimique, absolument.
D'accord.
Maëva vous demande, peut-on devenir stérile à force de faire trop de fausses couches?
Non. Non, non. Non, les fausses couches, notamment les fausses couches à répétition, ça rentre un peu dans le cadre de l'infertilité, enfin des troubles de la reproduction, on va dire. Mais le fait de faire des fausses couches ne rend pas stérile.
Encore une question sur l'accompagnement. Après mes deux fausses couches, j'ai été très mal orientée par le corps médical. Ouais. C'est Anna qui nous dit, n'y a-t-il pas un manque de formation chez certains professionnels à ce sujet? Comment ça se passe en école de médecine là-dessus?
En fait, dans la spécialité, quand on apprend la spécialité, alors maintenant ça va beaucoup mieux parce qu'on milite un peu, il y a de plus en plus de formations, de plus en plus de recherches sur le sujet aussi, parce que ça c'est important. Mais c'est vrai que c'est un sujet, moi quand j'ai découvert ça et quand je m'y suis intéressée il y a 10 ans, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on était très mal formés, qu'on y connaissait le minimum pour savoir la prise en charge, quoi faire au moment de la fausse couche. Mais effectivement, il y avait un manque de formation sur notamment les fausses couches à répétition où on voit des patients qui parfois ont des errances médicales pendant longtemps avant de trouver tomber au bon endroit.
Et en médecine générale, en fac de médecine, on parle de ce sujet ou non?
Bof.
Bof. D'accord. Et quand vous dites que les choses évoluent, c'est très récent, non?
Oui, c'est très récent. Ouais. Alors, et pour l'instant, surtout, les choses évoluent dans la spécialité, dans la formation des internes de spécialité. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a encore du boulot pour les généralistes. Ouais.
Une question, alors toujours autour des fausses couches. Émilie demande, la cigarette augmente-t-elle le risque de fausses couches?
Oui. L'hygiène de vie en général, l'alcool, le tabac, le cannabis et compagnie, il y a probablement un léger surrisque de fausses couches. Ouais.
L'hypnothérapie est-elle une clé pour lutter contre les fausses couches?
Ah oui, donc suite à l'exemple de tout à l'heure. Ouais. En fait, il y a très probablement une part de stress. Et nous, par exemple, quand on prend dans la prise en charge des fausses couches à répétition, ce qu'on appelle le cocooning, on sait que ça marche. C'est-à-dire qu'on va encadrer les patientes, on va leur proposer une consultation psychologique, on va les encourager, on va les surveiller de près, faire des échographies toutes les semaines. Et tout ça, on sait que ça marche. Donc, dans ce sens-là, l'hypnothérapie peut marcher dans le sens relaxation.
Vous appelez ça le cocooning, c'est-à-dire la prise en charge?
Oui, c'est pas moi qui appelle ça, ça s'appelle comme ça, une prise en charge médicalisée.
Une fois qu'il y a un terme mignon.
Ouais.
Mais du coup, alors, il y a un rôle pour le coparent.
C'est-à-dire
que lui
sûr.
Aussi peut cocooner.
Ah ben bien sûr, tout le monde peut cocooner, mais fausse. Et puis surtout, alors encore une fois, je le répète, une fausse couche, c'est normal dans le sens où ce n'est pas pathologique dans une vie de femme. C'est un événement qui va concerner beaucoup de femmes et qui ne sera pas anormal. On va dire ça.
Vous pesez pour
moi. Non, mais je pèse mon mot parce que j'allais dire ce qui ne sera pas grave, mais en fait, c'est pas le
c'est
bon
grave.
Terme. Ça peut être grave, bien sûr. C'est bien sûr, ça peut être grave.
Mais il y a toujours cette phrase, la nature est bien faite.
Bien
sûr.
Il
y a toujours cette phrase qui est très dure à entendre, mais qui est vraie.
Mais qui est vraie aussi, parce qu'évidemment, il vaut mieux faire une fausse couche précoce qu'avoir une malformation, un trouble beaucoup plus grave, tardif et tout. Mais voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Voilà, je ne dis pas grave, parce qu'une fausse couche dans un événement de femme, c'est pas rien. Et puis, voilà. Mais c'est pas pareil que d'en faire 3, 4, 5, 10, comme on en voit, nous, de temps en temps. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça.
Je sais pas, mais c'était bien.
Non, mais je pense que c'était très
on
bien.
On s'est compris.
Alors, on enchaîne avec Christelle, qui nous raconte, j'ai fait 2 fausses couches, dont une avec hémorragie, et j'ai perdu un bébé à 8 mois de grossesse.
Ah oui.
De nouveau enceinte de 13 semaines, j'ai très peur que ça recommence, on la comprend.
Bien sûr, oui.
Des conseils pour le stress?
Alors, oui. Alors là, il y a 2 événements qui sont, pour une même patiente, 2 événements qui sont très durs. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais dans les fausses couches. Enfin, on n'en parle pas suffisamment. C'est ce qu'on appelle la fausse couche hémorragique. Et c'est vrai que la fausse couche hémorragique, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que les patientes arrivent avec, c'est le saignement, c'est le robinet ouvert. Hein. C'est impressionnant, même pour les soignants. Hein. C'est-à-dire que ça saigne à flot, quoi. Donc, c'est tout de suite au bloc, on court au bloc, perfusion, transfusion, aspiration en catastrophe. On n'a rien le temps de l'expliquer, c'est une vraie urgence. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est un traumatisme. Hein, et les patientes, elles le sentent, elles ont l'impression qu'elles vont mourir, en fait. Donc ça, c'est plus, évidemment, la perte de l'embryon, enfin, la fausse couche, quoi. Et après, alors, la perte fœtale, beaucoup plus tard, à 8 mois de grossesse, c'est malheureusement encore autre chose. qui est encore un événement ultra difficile aussi. Donc, cumuler les deux choses sur la grossesse qui suit, on le sait déjà que de toute façon, une grossesse qui suit une ou plusieurs fausses couches, c'est pas la même qu'une grossesse normale. Alors, une grossesse qui suit une perte de grossesse tardive, évidemment, c'est très difficile. Donc, il faut se faire accompagner, là, c'est sûr.
Sur le plan psychologique.
Sur le plan psychologique, absolument. Nous, on propose une surveillance ultra renforcée avec sage-femme à domicile, voire hospitalisation à domicile, surveillance. Et puis après, il faut voir à quel terme a eu lieu l'événement, mais bien encadré ce moment-là, pour certains, proposer des naissances avant.
Là, elle est à 13 semaines, mais par exemple, est-ce que l'acupuncture, l'hypnose,
tout ce qui peut la relaxer, ça ne sera que bien.
Alors, là, sophro ?
La sophro, bien sûr.
Le skate ?
Le skate, non.
Ça ne vient pas, le skate. Merci, Benjamin, vous devriez être sage-femme.
Vous voyez pourquoi j'ai raté médecine ? Bon, parlons de choses plus légères.
Oui.
Le Covid.
Oui,
qu'il a ce matin.
Vu que vous êtes responsable d'une maternité, parlez-nous peut-être un peu du protocole. On en est où aujourd'hui du protocole Covid, la place que peuvent avoir les coparents
Alors, on en est où? Ça va mieux parce qu'il est recommandé de vacciner les femmes enceintes. Et ça, c'est vrai qu'on milite pour, parce qu'on raisonne vraiment en balance bénéfice-risque et on a vu quand même beaucoup de femmes enceintes qui sont allées en réanimation.
Ouais. Et là, vous en voyez beaucoup moins?
Ah, on en voit beaucoup moins, mais
c'est toujours recommandé à partir du deuxième trimestre ?
Non, ça vient de changer, ça a changé il y a deux semaines, maintenant c'est quel que soit le terme de la grossesse.
D'accord.
Voilà, ça vient de changer tellement ça vaut vraiment le coup de les vacciner. Après, pour les protocoles, non, c'est vraiment toujours pénible si les patientes arrivent en pleine infection pour accoucher. Elles accouchent seules, les conjoints ne sont pas acceptés, enfin c'est toujours...
D'accord, mais mis à part ça, sinon on accouche à peu près normalement ?
Ouais.
D'accord. Et juste sur la vaccination, vous avec vos patientes, il y a des débats où vous avez besoin de convaincre.
Il y a des débats, on a besoin de convaincre tous les jours et c'est normal.
Tous les jours, ouais.
C'est-à-dire que dans un climat où il y a eu beaucoup de désinformation et puis on reste dans un nouveau médicament, la partie de la population la plus difficile à convaincre, c'est les femmes enceintes, bien évidemment. Donc du débat, il y en a tout le temps et c'est normal qu'il y en ait. Ça serait inquiétant d'ailleurs s'il n'y en avait pas.
Bien sûr. Mais vous réussissez à les convaincre dans la majorité
du temps. Oui, dans la majorité du temps, oui, parce que c'est vrai que nous, on les voit, les effets, on le voit que. Et d'ailleurs, il y a de très beaux papiers qui viennent sortir. On le voit qu'il n'y a pas eu de complications graves de la vaccination. Et il y a maintenant des milliers de femmes qui ont accouché, qui ont été vaccinées et tout ça. Alors que des femmes enceintes qu'on envoie en réanimation, ça, on les voit. Mmh. Donc, c'est vrai que voilà. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des complications sur le long terme, parce que c'est ça qui inquiète tout le monde, en fait.
Voilà, merci beaucoup au docteur Marie Borne d'être venue nous voir et surtout merci à Lisa d'avoir accepté de raconter son histoire. C'est pas simple, mettez-vous à sa place. Face à Agathe Le Caron, surtout face à Agathe Le Caron. Non, je plaisante, elle est très forte pour mettre à l'aise les gens. Je dois bien le reconnaître. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain, mercredi, pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. Et puis, bien sûr, en direct, à partir de 9h25, n'hésitez pas à nous contacter. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est là où on est le plus réactif, pour nous suggérer des thèmes, si vous avez des critiques, si vous avez n'importe quoi, voilà, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À plus, à demain, j'espère.